Bonjour bien-aimé. Oui, je désire écouter ta voix. Je désire faire ta volonté. Que Dieu nous accorde la force qu'il nous a promis, n'est-ce pas? La Bible dit que l'Esprit de Dieu nous a été donné pour que justement nous les croyants, nous puissions puiser dans cette troisième personne de la Trinité les trésors inestimables pour vivre selon sa volonté. Que ce désir soit imprimé dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu, ce désir de faire la volonté de Dieu, car sa volonté est bonne et parfaite. Et justement, fort de cette volonté, nous avons commencé il y a maintenant une semaine, dimanche dernier, à réfléchir sur un thème, une vie fructueuse. Voilà. Et nous avions médité dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 2. Et nous avions justement vu dans cet Épître que Dieu nous a créés et que chacun de nous est un chef-d'œuvre de Dieu. Un chef-d'œuvre de Dieu. Et qu'il nous a créés pour que nous accomplissions ce pourquoi nous sommes sur la terre des vivants, les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance que nous pratiquions. Cela signifie que nous avons un appel, et que parfois, quand on dit appel, on le limite à ce qui est purement chrétien, ce qui est réservé spécifiquement à ce qu'on appelle l'Église dans le sens de la communauté. Il faut savoir que dans la perspective de l'Église depuis la Réforme, donc 16e siècle, il y a ce qu'on appelle l'Église rassemblée, c'est-à-dire que lorsque nous nous sommes en réunion, lorsque nous nous rassemblons les dimanches pour honorer, louer et célébrer notre Dieu, lorsqu'en semaine nous nous réunissons pour intercéder, prier, lorsque au travers les différents groupes de l'Église, les groupes des dames, les groupes de jeunes, les ados, l'école du dimanche, nous nous rassemblons de façon catégorisée ou de façon missionnelle, tout ça fait partie de ce qu'on appelle l'Église rassemblée. Et l'autre aspect, c'est l'Église dispersée. L'Église dispersée, c'est quand nous sommes dans la vie de tous les jours. Nous ne sommes pas moins Église, nous sommes toujours l'Église, mais dispersée dans nos lieux de vie, dans nos activités professionnelles, dans nos familles, et nous sommes toujours l'Église. Quand nous sortons de ce bâtiment, nous ne sommes pas moins l'Église que lorsque nous sommes rentrés. Seulement, il y a deux formes de cette Église. Il y a celle qui est rassemblée dans les rassemblements de l'Église, dans les ministères de l'Église, et il y a celle qui est dispersée dans ce que nous faisons, de façon soit individuelle, soit en famille. Et justement, les bonnes œuvres dont parle l'Épître aux Éphésiens concernent les deux types de manifestation de l'Église. Elle concerne celle qui est l'Église rassemblée. Donc oui, nous sommes là pour faire l'œuvre de Dieu lorsque nous nous rassemblons pour les ministères de la communauté. Ministère d'évangélisation, ministère d'édification, ministère de louange et d'adoration. De façon schématique, c'est ces trois grands ministères que nous avons. Lorsque nous sommes rassemblés, quel que soit le type de rassemblement que nous avons, nous sommes là pour adorer, louer Dieu. Nous sommes là pour affermir, édifier la foi de l'Église, donc des chrétiens que nous sommes, et nous sommes là pour proclamer la bonne nouvelle, évangéliser. Et ces trois choses se manifestent autant dans l'Église rassemblée que dans l'Église dispersée. Et donc, cet appel qui est au cœur de la vie de celui qui est en Christ concerne bien sûr l'Église rassemblée, mais aussi l'Église dispersée. Et je vous ai fait remarquer que si tu es parent, tu es parent, c'est un ministère dans l'Église dispersée. Parce que cette mission-là, c'est une bonne œuvre donner la vie et conduit une petite vie à devenir un adulte et à se prendre en charge. Et même parfois, quand ils sont grands, nous avons encore à veiller sur eux dans certains domaines. On dit un enfant n'est jamais trop grand pour sa mère et son père. Jamais trop grand. Et c'est vrai en plus, parce que quel que soit notre âge, on continue de l'appeler papa, maman. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ton papa, c'est ta maman. Que t'aies 70 ans, que ton père soit vivant, tu l'appelles toujours papa. Parce que c'est lui qui a été le moyen de Dieu de te faire venir au monde. Même parfois, même quand les relations ne sont pas au beau fixe, n'en demeure pas moins que c'est ton père. Ce qui fait que cela demande aux chrétiens de bien comprendre son existence. C'est une existence que Dieu, bien avant la fondation du monde, avait prévue pour moi, pour toi. Et s'il a prévu ainsi, c'est qu'il avait une bonne raison. Certains parlent de la destinée. Je ne pense pas personnellement qu'il y ait des chemins tout tracés. Mais je pense par contre, d'après les Écritures, que si nous sommes là, si je suis là Serge, si tu es là Josiane, c'est que Dieu a voulu que nous soyons là. Et là où il nous a placés, bah c'est là il a voulu que nous soyons. Et tant que nous sommes là où il a voulu que nous soyons, il a prévu des bonnes œuvres qu'il nous demande d'accomplir. Cela veut dire aussi que nous avons besoin de nous concentrer sur ces bonnes œuvres-là, au lieu de nous disperser. C'est pour cela que quand on est dans la foi, en fait, on a un regard nouveau et finalement, on réoriente notre vie. Hein. Si on était dissipé dans plein de choses, la foi nous aide à nous réorganiser parce que ça nous donne une nouvelle vision. Et finalement, pour ceux, par exemple, qui étaient adonnés à l'alcool, ils voient bien que c'est pas une bonne œuvre. Donc finalement, ils abandonnent cela. Gloire à Dieu. Et ceux de leur famille qui les connaissaient alcooliques et qui voient qu'au travers de leur conversion, ils ont quitté cette addiction, sont bien reconnaissants à Dieu. Ça veut dire que tout le temps que ce bien-aimé prenait pour mettre dans l'addiction à l'alcool, il va l'investir dans une bonne œuvre. Alors que jusque-là, il gaspillait ce temps. Il gaspillait de l'énergie. Il mettait en danger sa santé. Et là, il va le réinvestir dans quelque chose de louable, dans quelque chose de glorieux. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est aussi que tout cela rentre dans un chemin, dans un plan global de Dieu pour ta vie, pour ma vie. Et c'est l'apôtre Paul qui est un peu celui que Dieu a pris pour nous montrer qu'une vie humaine, lorsqu'elle se donne à Dieu, Dieu lui montre clairement, on dit, et je vous l'ai rappelé la dernière fois, que nous sommes uniques. Et ça doit nous poser une question, pourquoi je suis unique? Pourquoi Serge Aimé Oulahi, même s'il peut avoir dans le monde, quand je tape sur internet Serge Aimé Oulahi, j'en vois d'autres, c'est pas mon visage qui sort, hein, je vois d'autres, je suis pas seul, il y en a plusieurs. Mais Josiane Galvani, il y en a qu'une seule. Même si ce nom peut être porté par plusieurs, celle que nous connaissons, elle est unique, et je vous l'ai démontré, ne serait-ce que par l'empreinte de ses doigts. Parce que les empreintes de nos doigts sont uniques. Il n'y a que nous seuls qui avons ces empreintes-là. Il n'y a personne d'autre. C'est pour ça que lorsque nous devenons majeurs et que nous faisons nos pièces d'identité, on prend nos empreintes. Et c'est dans un fichier. Comme ça, en cas de, on peut retrouver la personne. Parce qu'il n'y a que toi qui as cette empreinte-là. Donc, t'es unique. Et ça nous donne déjà l'idée que nous sommes des créatures merveilleuses. Que nous sommes des créatures merveilleuses. Le fait que tu sois une créature merveilleuse ne dépend pas des standards de notre monde. Le monde, parfois, il taille des statues, hein. Mais ça varie beaucoup en fonction de là où tu es dans le monde. Ici, les statues, on les connaît. Mais dans d'autres endroits du monde, c'est pas les mêmes statues. Alors qu'en Dieu, il n'y a qu'un seul. Tu es une femme, tu es un homme, tu as été créé en l'image de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Et si c'est le cas, alors, ta vie a un but. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble ce matin. Travailler à une vie fructueuse. Se concentrer sur l'œuvre de notre vie. Se concentrer sur l'œuvre de notre vie. L'idée, nous allons lire cette idée tout à l'heure dans cette épître de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens. Dans cette épître, à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 14, il parle d'une situation qui est liée à l'église de Corinthe, mais aussi à la chrétienté en général. C'est la question de la liberté chrétienne. Ceux qui sont nés de nouveau dans cette église avaient un peu de mal à gérer cette nouvelle vision du monde, cette nouvelle liberté. Et ils se dispersaient un peu dans plein de choses. Au point où ça créait d'autres situations d'église pour lesquelles l'apôtre Paul a dû écrire sous l'inspiration de Dieu pour régler des situations, pour remettre des choses en ordre, pour donner des directives. Et c'est dans cette section qui aborde cette question qu'on appelle les privilèges qui sont liés au fait que Dieu ait suscité, notamment l'apôtre Paul, mais ça nous parle de façon plus générale. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 23 au verset 27. Or, tout cela, je le fais pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant un seul remporte le prix? Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement. De peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. L'apôtre Paul écrit cette section en montrant qu'il avait un appel particulier, que Dieu, dès avant sa naissance, avait prévu qu'il soit Saul de Tarse, renommé, rebaptisé Paul. Il a eu un parcours, il le dit dans l'une des épîtres à Timothée, il a eu un parcours qu'on peut qualifier de normal, même un peu supérieur dans sa vie. Et puis quand il a rencontré Jésus dans un événement difficile, puisque l'apôtre Paul, à un moment de sa vie, il était persécuteur de l'Église. Il était un bon juif convaincu que la seule et la vraie foi, c'est celle du judaïsme ancien, et que toute autre forme de foi n'était pas conforme à Dieu, et que de fait, tous les juifs qui se tournaient vers une foi contraire devaient subir la fatwa, donc l'anathème. Et donc les autorités juives de Jérusalem avaient pris un mandat d'arrêt contre tous les chrétiens, et donc on les cherchait. C'est pour cela qu'au premier siècle, les chrétiens ne se réunissaient pas dans des lieux connus. Ils sont un peu aujourd'hui comme dans les églises, dans l'église persécutée. Ils avaient des symboles où ils savaient où se retrouver. Et l'apôtre Paul était un débusqueur de ce genre d'endroit. Il était un spécialiste de débusquer les groupes chrétiens qui se réunissaient. Et ce jour-là, quand il rencontre Jésus, il est en train d'aller à Damas parce qu'il a fait toute son enquête. On lui a dit, il y a une église qui se réunit à Damas. Il allait à Damas pour débusquer cette église, pour arrêter les responsables, pour les livrer aux responsables juifs. Et quand on les livrait, il subissait une peine qui était dans l'Ancien Testament, qui était liée à l'anathème. Tous ceux qui étaient anathèmes, c'est-à-dire tous ceux qui étaient des gens dont la foi n'était plus conforme à la foi du Dieu de l'Ancien Testament et qui disait que quelqu'un d'autre était Dieu, était condamné à mort, à la lapidation. Ça a été le cas d'Étienne, Actes chapitre 7, le premier martyr de l'Église. Étienne a été lapidé à mort pour avoir proclamé Jésus-Christ. Pierre et Jean y ont échappé en Actes chapitre 3 par l'action du Saint-Esprit qui les a libérés de la prison. L'apôtre Paul y a échappé plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit arrêté et mis en résidence surveillée à Rome. L'apôtre Pierre, à la fin de sa vie, a été arrêté et l'histoire dit, on n'est pas sûr, mais qu'il a été pendu la tête en bas. Pourquoi on lui a fait ça? Parce que juste, il disait que Jésus-Christ est Dieu et que ce Jésus change la vie. Donc, c'est cet apôtre qui dit, moi, depuis que Dieu m'a montré le vrai sens de ma vie, je me bats pour une chose, pour que les hommes et les femmes, sur tous les territoires non-juifs, entendent cette bonne nouvelle, qu'ils tournent leur cœur vers Jésus-Christ et qu'ils soient remplis de l'amour de Dieu et qu'ils soient des artisans de paix, qu'ils soient des hommes et des femmes nouveaux. Il écrit ça dans l'Épître aux Corinthiens, dans laquelle il a écrit l'hymne à l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13, dont je vous ai parlé, première prédication de l'année, sur l'amour. J'espère que vous avez le petit papier que je vous ai donné, sur lequel vous avez marqué des choses que vous devriez regarder et travailler. Si vous l'avez pas, je me suis donné de la peine pour rien. Et si vous voulez que ma peine ne... Bref, retrouvez ce petit papier. Non, je rigole. Mais ce que nous faisons, c'est de nous encourager en nous donnant des petites astuces pour rester concentré, c'est notre objectif. Pour rester concentré. Et donc, c'est cet apôtre qui dit, moi, je me suis fait tout à tous. Quand il y avait des cultures différentes de la mienne, j'essayais de comprendre cette culture pour pénétrer cette culture, pour leur faire la grâce de recevoir Jésus-Christ. Quand c'était des juifs, je faisais l'effort de les comprendre. Au point où j'arrivais à m'intégrer à eux pour leur présenter le bénéfice qu'ils pouvaient tirer de donner leur vie à Jésus-Christ. Quand c'était des non-juifs, donc des grecs, je faisais aussi l'effort de les comprendre. Donc c'est ce qu'il dit au verset 23. Or, tout cela, pourquoi j'ai fait tout cela? À cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle. Mais il dit, ça m'a coûté quelque chose de faire ça. Ça m'a coûté quelque chose de faire ça. Il dit, je le fais avec un cœur rempli de joie, poussé par l'Esprit de Dieu, mais ça coûte quelque chose. Vas-y, s'il te plaît. Ça coûte quelque chose. Que veut dire Paul en nous encourageant à courir de manière à gagner la couronne, à gagner la course? De quelle course s'agit-il? Qu'est-ce que cela signifie de gagner cette course? Que signifie, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette? Comment pouvait-il savoir dans quelle direction courir dans sa vie? Avant que Jésus rentre dans nos vies, nous courions aussi un peu partout, sans Dieu. Et puis quand Christ est rentré dans notre vie, notre vie a pris une direction tout autre. Nous savons maintenant globalement vers quoi courir. Avant, nous courions un peu comme tout le monde. Hier, jusqu'à 1h du matin, j'étais invité à prêcher à la veillée d'hommage à une personne que j'ai connue dans l'une de nos églises à Évry, qui est décédée. Je savais même pas qu'elle était décédée. Il y a une sœur qui m'appelle il y a 2 semaines et qui me dit, est-ce que tu as des nouvelles d'une telle? Je dis, non, elle est décédée. Mais je pensais que tu le savais. Je dis, non, je ne sais même pas qu'elle est décédée. Elle est décédée. Elle a fini sa course. L'a-t-elle bien fini? J'espère. J'espère. Nous, on est encore vivants. On est encore en course. Peut-être c'est le bon moment de réfléchir sur notre course. Nous avons cette évidence dans nos têtes, et c'est normal puisque nous devons être optimistes. Nous avons cette évidence que le lendemain, nous allons nous réveiller en vie. Et heureusement qu'on a cet optimisme-là, sinon ça serait, la vie serait tragique. Ainsi, tous les soirs, je dors, je dis, Seigneur, je sais pas si je me réveille. Ah quelle horreur, quel poids. Non, il faut pas prendre ce poids-là parce que Dieu nous donne la vie. Donc, se soucier chaque soir si demain je me réveillais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est lui qui nous donne la vie. Vivons-la avec reconnaissance et joie. Par contre, la Bible dit que la vie d'un homme, aussi riche soit-il, ne dépend pas de ce qu'il a, mais dépend de Dieu. Si on sait ça, on s'organise. Et ces questions sont là pour nous aider à voir comment tout ça, le Seigneur nous aide à le faire au travers de l'exemple de l'apôtre Paul. Vas-y, s'il te plaît. Vive ta vie comme une course dont le but est d'accomplir l'œuvre entière pour laquelle Dieu t'accorde la vie. Paul annonçait l'évangile de bon cœur, c'était sa vocation. Il était convaincu que quand Dieu le rencontre, on est en Actes chapitre 9, et que Dieu lui dit, maintenant, c'est bon, je te donne une nouvelle mission, nouvelle orientation pour ta vie, tu seras mon champion, tu seras l'annonciateur de la bonne nouvelle parmi tous ceux qui sont pas juifs. C'est ta mission pour toute ta vie. Avec un, vous savez, souvent dans les contrats d'assurance, il y a des conditions en petite ligne où il faut prendre une loupe pour regarder. Dieu, il fait pas ça. Dieu, même les conditions difficiles, il les met en gras, en gros caractère. Et à Paul, il a mis ça en gros caractère. Il dit, tu vas être mon champion, mais tu vas beaucoup souffrir. Ça va te coûter beaucoup. Paul a dégusté, hein, si vous lisez les Actes des Apôtres, le pauvre. Mais on a l'impression que comme il était rempli de cette mission, il y a des fois, il dit, on m'a battu à mort, les gens pensaient que j'étais mort, ils m'ont laissé pour mort. Les chrétiens sont venus me relever. J'étais pas mort. Ils m'ont soigné. Et les jours d'après, je suis reparti en mission. Tu dis, waouh. À un moment donné de sa mission, un prophète parle de la part de Dieu et dit, ne va pas à Jérusalem parce qu'on va t'arrêter. On va t'enchaîner. Et il dit, même si on m'enchaîne, Dieu m'a convaincu d'y aller. J'y vais. Merci pour l'information, mais j'y vais quand même. Il dit, allez, on l'a arrêté. Et l'arrestation de l'apôtre Paul a été tournée en quelque chose d'extraordinaire par Dieu. Parce que finalement, c'est cette arrestation qui a fait que l'apôtre Paul a fait le troisième voyage missionnaire. Le troisième voyage missionnaire, c'est lors justement de cette arrestation où, à cause de sa citoyenneté grecque, romaine, il fait appel à l'empereur. Il dit, je suis citoyen romain. Et en tant que citoyen romain, dans la loi, il est dit que je peux faire appel à être jugé par l'empereur. Et quand un citoyen romain, né romain, c'est-à-dire il y avait des catégorisations de citoyens, il était parmi la première catégorie, lorsqu'un citoyen romain dit cela, on n'a aucun autre choix que de le conduire à Rome pour qu'il comparaisse devant l'empereur. On ne sait pas si l'empereur aura le temps de le recevoir, mais au moins on le conduit à Rome. Et c'est comme ça qu'il y a eu le troisième voyage missionnaire. On a escorté Paul jusqu'à Rome. Et pendant tout le temps où on l'escortait, toutes les escales, bah, c'était une occasion. Et tous les consuls, toutes les autorités militaires et politiques qu'il a rencontrées, bah, ça a été une occasion de lui annoncer l'évangile. Il y a un même qui lui a dit, ça suffit, pour ce soir j'en ai beaucoup entendu, sinon tu vas finir par me convaincre. Ramenez-le dans sa prison. Et par cette intervention, l'une des choses que Dieu lui a dites clairement, Actes chapitre 9, il a dit, tu seras mon témoin parmi les autorités, bah, c'est ce voyage qui a permis à Paul de témoigner devant plusieurs autorités militaires et politiques. Donc, il était vraiment rempli de cette vision de sa vie. Mais, ça n'a pas été facile. Il a dû se discipliner. Il a dû souvent se réorienter. Mais il a fait toujours avec conviction, avec joie, avec amour. Parce que c'était sa vie, c'était son engagement, c'était sa vocation. Il dira à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. J'ai mené ma course jusqu'à la fin. Je sais que la couronne de victoire m'est réservée. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui courront leur course jusqu'à la fin. Dans le bon sens de la course. Si vous êtes en train de courir et que vous connaissez l'itinéraire et que du coup vous voyez un de vos amis qui court aussi, qui fait demi-tour et qui va dans les sens contraires, tout le monde va commencer à le regarder. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais lui, il est convaincu de faire demi-tour. Ça, ça paraît un peu imaginaire. Parfois, ça arrive dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo où il y a des jeux de course. Lorsque l'enfant est dans le mauvais itinéraire, bah, le jeu lui donne une indication, mauvaise direction. Il peut s'entêter à y aller, mais le jeu lui dit, c'est la mauvaise direction. Donc, c'est sûr qu'il va pas remporter cette course-là. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que parfois, nous devons nous rassurer que nous sommes en train de courir dans la bonne direction. Nous devons nous rassurer que nous sommes restés dans la direction de Dieu. Ça fait que, finalement, comme il savait l'objectif de sa vie, il s'organisait aussi par rapport à cet objectif-là. Si vous êtes un parent, c'est un objectif de votre vie. Vous savez que vous serez parent jusqu'à ce que l'enfant soit autonome financièrement et qu'il soit autonome dans tous les sens du terme avant de respirer un peu. Pour celui-là, en tout cas, parce que s'il y a un gros des plus petits, bah, il faut attendre que tout le monde ait fait ce pas-là. Donc, du coup, cette course-là, si vous avez 3 enfants, vous allez la courir 3 fois. Il faut vous rassurer que vous la courez bien pour chacun d'eux jusqu'au bon moment que eux-mêmes vont commencer leur propre course. Si vous êtes un étudiant, un de nos leaders quand on était étudiant, il nous disait, qu'est-ce qui est marqué sur votre carte d'identité? Profession, c'était marqué 2 points étudiant. Il dit donc, votre travail à vous là, étudiant, c'est d'étudier. Il dit, votre travail actuellement, c'est d'étudier pour réussir vos études. Donc, si vous êtes étudiant, votre course, c'est de réussir vos études. Et pour cela, on va le voir, dans chaque domaine de nos courses, il y a 2 principes qu'on voit dans la vie de l'apôtre Paul, qu'on va regarder ensemble. Le premier principe, c'est d'abord se discipliner. Se discipliner. On en parlait vendredi soir avec Émile. Les parents, lorsque les enfants sont à bas âge, si on se discipline pas, on s'en sort pas. En semaine, déjà, il faut se discipliner pour les gérer. Les week-ends, il y a les activités extrascolaires, on a aussi nos activités. Et je parle sous le contrôle de plusieurs parents qui sont dans cette dynamique actuellement. Ça demande de la discipline, ça demande de l'organisation. Et parfois, il suffit d'un événement pour que ce que vous avez mis en place, voilà. Et vous êtes obligé de chercher des plans B, des plans C. Parfois, c'est un casse-tête. Premier axe, discipliner sa vie. Ça paraît un grand mot, mais en fait, c'est pas si grand que ça. Parce qu'on fait ça tous les jours, en fait. Tous les jours, on se discipline. Comment se fait-il que nous sommes là tous dans cette salle ce matin? Parce que nous sommes disciplinés pour être là. Parce que nous avons pris un certain nombre de décisions, nous avons préparé un certain nombre de choses, ce qui fait que nous sommes là. Nous nous sommes disciplinés. Donc finalement, la discipline, elle est là tous les jours. Il suffit de bien s'organiser. Plus on va loin dans la vie, l'adage dit, celui qui veut aller loin, ménage sa monture. Deuxième aspect, c'est bien fixer l'objectif. Quel est l'objectif? Sinon, on peut se tromper. Vas-y, s'il te plaît. Le premier, se discipliner. On a besoin de cette discipline pour gagner la course. Et c'est pour cela qu'il prend l'image de tous ces athlètes. Il dit, les athlètes, là, ils peuvent être 10 au départ, mais il n'y a pas un qui dit, je vais être dernier. Tous les 10 qui sont au départ, tous les 10 disent, c'est moi qui vais arriver le premier. Il dit, mais pourtant, on sait bien qu'il n'y a qu'un seul qui va arriver. Hein, bon. Mais chacun est motivé, chacun est discipliné. Et avant de venir sur la ligne de départ, bah, ils ont toute une discipline derrière, ils ont tout un entraînement, et l'apôtre Paul prend cette image. Il prend cette image. N'oubliez pas qu'il est romain, juif, mais aussi dans cette première, dans ce premier siècle, et que déjà il y avait les débuts de ce qu'on appelle les Olympiades aujourd'hui, donc il connaissait ces choses, hein. Il connaissait ces questions de compétition, d'athlétisme. Donc il prend cette image-là pour parler de cette réalité. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les coureurs courent pour gagner, et cependant un seul remporte le prix. Il dit, soyez comme le seul qui va remporter le prix. Dans tous les objectifs de vos vies, c'est pas grave. Ne vous dites pas, ah, je vais pas gagner. Ne partez pas perdant. Il dit, partez comme des gagnants. Après la vie et la vie. L'idée, c'est de ne pas mettre les barres trop basses, parce que plus on met les standards bas, moins on progresse. Il dit, c'est vrai pour la vie chrétienne, c'est vrai aussi pour tous les autres aspects de la vie. C'est pas l'idée d'être le meilleur, c'est l'idée de se motiver pour le meilleur. Et avec la force que Dieu te donne, de te motiver par l'Esprit de Dieu. Et cela, ça demande la discipline. Celui qui participe aux Jeux Olympiques se discipline, il discipline les aspects de sa vie. Il dit, le boxeur qui s'entraîne, il prend une image aussi, hein, parce que voilà, les pugilats, les combats, il connaît, mais il parle du combat, il prend cette image pour parler du combat qui n'est pas un combat humain, qui est un combat vis-à-vis des défis de la vie, mais qui est un combat aussi pour garder la foi. Hein, c'est ce qu'il dira dans 1 Timothée 6, à partir du verset 11. Quand il parle à Timothée, il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession de foi en présence de grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Donc il prend ces images pour nous parler de la question de la discipline. On n'est peut-être pas tous des champions de discipline, mais il faut quand même aller vers là. Parce que l'objectif, je voulais rappeler, notre vie, c'est un tout. Il n'y a pas une partie de la vie de Serge qui est le Serge chrétien et puis une autre partie de la vie de Serge qui est le Serge de tous les jours. Il y a un seul Serge. On n'est pas des schizophrènes, on n'a pas deux entités, on a une seule entité. Et je voulais rappeler le dimanche dernier, je suis émerveillé de l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes. Et je vous ai rappelé que parfois, on peut être triste quand même dans l'église que cette intelligence, nous l'utilisons très peu. Parce que finalement, on est si doué, mais on prend très peu de temps pour discipliner, pour exceller dans les choses pour lesquelles on est doué. Pourquoi on fait ça, je me demande. Moi, le premier, et je vous ai illustré cela avec le fait que je parle dans un micro, c'est quelqu'un qui s'est assis, qui dit, faut que quand il y a des grands, qu'on est dans une grande salle et que quelqu'un parle, faut pas qu'il fasse trop d'efforts. Comment on va faire pour amplifier sa voix? Bah, il a créé le micro. Mais il a fallu que lui s'asseye, se discipline, réfléchisse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a créé le micro. Ça veut dire que si tu es parent, la fatalité, il faut la laisser de côté. Qu'est-ce que tu vas faire pour être le meilleur parent possible? Pour tes enfants. C'est pour la gloire de Dieu. Et tes enfants te seront tellement reconnaissants si tu fais ça. Tellement reconnaissants si tu fais ça. Si tu es étudiant et que tu te disciplines pour étudier, pour faire ton possible autant que cela dépend de toi, et que tu réussis à tes examens avec la force que Dieu te donne, bah, tu seras content, tu seras content. Parce que tu auras atteint un objectif dans ta vie. Et cet objectif va t'ouvrir les portes pour l'après. Si tu es dans le milieu professionnel, pareil. J'articulais j'articulerai tout à l'heure dans le cadre de la vie de l'Église. Deuxième chose, cette course consiste à parachever l'œuvre de sa vie en visant le but avec soin, n'est-ce pas? Il explique que lui, il avait un mandat missionnaire et qu'il a tout fait pour que ce mandat missionnaire s'accomplisse. Ça n'a pas été facile, il n'a pas tout réussi, mais il a essayé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il dit, je ne suis pas un super apôtre. Il dit, du reste même, moi je suis le plus petit des apôtres parce que les autres apôtres, ils ont pas le passif que j'ai eu. Moi, j'ai eu le passif d'être un tueur de chrétiens, d'être un destructeur de l'Église. Ça me poursuit quand même un peu, même si Dieu m'a pardonné. Mais j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Rappelez-vous, quand en Éphésiens 2, ce que nous avons vu, c'est que Dieu appelle chacun d'entre nous à une vie d'œuvre bonne pour lesquelles nous avons été créés d'une manière particulière. Ces œuvres-là se situent dans le contexte du plan global de Christ pour ta vie, pour ma vie. Quelquefois, sur ces sujets-là, on dit, faut chercher la volonté spécifique de Dieu. Peut-être, moi j'en sais rien, mais je sais que si je suis là où je suis, faut déjà que je fasse ce que je fais avec soin. Faut que je fasse ce que je fais avec vraiment un intérêt de le faire bien, toujours un peu mieux. Bien sûr, avec mes limites, bien sûr, avec mes faiblesses, mais essayez. Je veux pas partir toujours en défaitiste en disant ça va pas aller, je vais pas y arriver, c'est trop dur. Je peux pas le faire. On fait ça avec nos enfants les soirs. Lis, dis j'y arrive pas. On dit bon. On utilise la méthode syllabaire. Lis la première syllabe. Et quand il démarre la première syllabe, ça vient. Donc, on essaie avec nos enfants d'enlever un verrou, d'enlever un frein pour qu'ils démarrent quelque chose. Et quand ils ont démarré, bah, ils y vont. C'est ce que Dieu fait avec nous, les bien-aimés. Mais on peut pas toujours rester au même point. Nous sommes des êtres humains et nous devons évoluer, progresser. Le monde progresse. Des fois, je regarde ce que j'ai fait dans le passé, je dis, oh là là. Tu étais pas quand même appliqué, c'est pas bien. Et ça me défie de faire un peu mieux. Des fois aussi, je regarde ce que certains frères dans d'autres milieux qu'ici présentent, comme là où j'étais un peu ces jours-ci, ce qu'un chrétien a présenté, je dis franchement, même un païen n'aurait pas présenté ça comme ça. Il n'aurait plus le temps de travailler le truc, de bien le préparer, de le présenter. Toi, parce que t'es chrétien, tu l'as fait comme ça. Franchement, franchement. Parfois, on dit on a un grand Dieu et on fait les choses comme si c'était finalement un petit Dieu qui ne valait pas la peine de se donner des efforts. C'est rien. Je dis ça pour moi-même aussi, les frères. Vas-y, Eric, s'il te plaît. Là, c'est un tout petit, c'est beaucoup de choses, mais en gros, ça veut dire que nous devons essayer de nous focaliser sur notre vocation. Ça veut dire que nous devions faire usage de notre liberté pour pratiquer les œuvres bonne que Dieu a prévu pour nous, et ces œuvres bonnes sont une collection de toutes les activités bonnes que nous avons dans nos vies, et que nous devons être perspicaces dans ce que nous faisons. Et que le prix, c'est d'abord la fidélité que nous montrons quand nous faisons ça à Dieu, mais c'est aussi la satisfaction que nous allons retirer de l'effort que nous avons fait. Vas-y, s'il te plaît. Dieu a donné à chacun d'entre nous d'accomplir une vocation, l'œuvre de sa vie. Quelle est l'œuvre de ta vie, finalement? L'œuvre de ta vie, c'est ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est toutes les choses qui sont dans ton panier d'activité, de responsabilité. Et c'est tous les domaines de ta vie. Ton domaine familial, ton domaine professionnel, ton domaine sociétal. Et cerise sur le gâteau dans l'église de Dieu. Vous savez, on est 60 millions d'habitants en France. 60 millions. Si j'ai les bons chiffres, hein, c'est ça. 67. Ça a progressé depuis. Vous savez, il y a combien de pourcents de chrétiens? 1%. Donc c'est 6,7% de la population. Même pas. 1%, ça fait quoi? 0, quelque chose. Parce que c'est 10% qui fait 6. Donc on est 0, quelque chose. Donc c'est dans ces 0, quelque chose que Dieu doit puiser pour continuer d'accomplir son œuvre sur la France. Donc ça veut dire que en France, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir faire l'œuvre de l'Église. C'est nous qui sommes là. C'est nous. Si nous ne le faisons pas, c'est pas les 99% non chrétiens qui le feront, hein. C'est nous les 1%. Donc ça repose sur nous. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera. Ça repose sur nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que dans ce domaine, l'une des choses qui est l'objectif de ta vie, de ma vie, c'est de faire en sorte que l'Église fonctionne et qu'elle fonctionne de mieux en mieux, qu'elle fonctionne de gloire en gloire, qu'elle manifeste la gloire de Dieu. J'aime à rappeler que si nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu des gens avant nous qui ont tenu le flambeau haut, qui ont gardé la flamme allumée, qui ont tenu cette maison qui s'appelle l'église de Créteil. Il y a des gens avant nous qui ont tenu cette maison. Elle a connu des bourrasques, cette maison. Elle a connu des tempêtes. Mais ces gens-là, ces hommes-là, ces femmes-là, étaient là. Ils ont tenu bon. Elles ont tenu bon. Si je suis là, debout, en train de prêcher, c'est parce que ces gens-là ont tenu bon. Qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans, dans 10 ans pour cette église? Qu'est-ce qui va arriver? Ben, y a deux schémas. Soit nous qui sommes là, qui avons rejoint, on s'implique, on s'engage, on essaie de faire le mieux possible dans cette course pour cette église de Créteil, pour qu'elle non seulement tienne, mais qu'elle progresse, parce qu'ils n'ont pas fait que tenir cette église, ils l'ont fait progresser. C'est cette course-là. C'est cette direction que nous pouvons prendre tous ensemble. L'autre direction aussi, c'est qu'on vient et qu'on soit tous des assistants et qu'on voie cette église péricliter tout doucement. Et un jour, chacun nous dira, oh, l'église de Créteil est morte. J'oublie le nom de celui que je vais citer maintenant. Il a écrit une lettre dans laquelle il parle à l'église. Il dit, église, j'ai toujours voulu que tu sois ce que je n'ai pas pu faire pour toi. Il dit, j'ai toujours été un spectateur et pourtant je te demande beaucoup, mais je m'implique pas. Vous savez, dans cette église, je suis là depuis bientôt 5 ans. Je regarde ceux qui financent cette église financièrement. C'est des gens, majoritairement, qui sont à la retraite et qui continuent de financer cette église de façon conséquente. Et quelques actifs qui sont là depuis quelques années. C'est un petit noyau qui finance cette église. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous savez, nous, église évangélique, on n'a aucune subvention de qui que ce soit. Nous faisons vivre les églises avec ce que chacun de nous apporte. Quelquefois, les chrétiens nous visitent, ils restent 1 année, 2 années avec nous, après ils partent. Ils partent dans de grandes églises, ils sont fiers d'aller dans ces grandes églises, et là-bas, ils financent beaucoup. Parce que ces grandes églises ont besoin de beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de besoins. Mais quand ils étaient avec nous, financer presque rien. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vois des chrétiens, et je suis content, qui s'engagent dans les œuvres caritatives, qui ont mis des prélèvements mensuels, sur un an, sur deux ans, pour la Croix-Rouge, pour Handicap, Médecins sans frontières. C'est bien, il faut faire ça. Mais vous savez, c'est 99% de la population va faire ça. Mais dans les 99% de la population, c'est pas eux qui vont financer l'église. Ils connaissent pas l'église. Ils vont même pas envoyer un sou ici. Hein. Mais ils vont être capables d'envoyer un sou à Médecins sans frontières, à la Croix-Rouge. Hein. Mais ils vont pas envoyer un sou ici. Hein. Donc, si vous n'envoyez pas, parfois on veut pas parler du financement de l'église. Mais le financement de l'église, je suis désolé. C'est parce que nos aînés ont financé cette église que nous sommes là. C'est parce que nos aînés ont financé cette église que nous sommes là. C'est parce que nos aînés ont financé cette église que nous sommes là. Aujourd'hui, tu veux couper le YouTube, s'il te plaît. Tu veux l'arrêter. Je fais ça rarement, mais je veux dire deux choses. Moi, je suis reconnaissant à Dieu pour tous ceux qui sont ici depuis bien longtemps. Je suis aussi dans le conseil, donc je suis les comptes de notre église et je vois la fidélité avec laquelle ces personnes, ces aînés, ces adultes, ces familles s'engagent financièrement, mais s'engagent aussi, ils sont là, ils sont le noyau qui travaille dans cette église. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas oublier quelques-uns, mais je suis reconnaissant à Dieu. Moi, un peu comme l'apôtre Paul, au début, je voulais pas m'engager et dépendre de finances d'une église. J'étais trop fier pour cela, parce que j'avais fait des études d'économie, et je m'étais dit, Seigneur, je veux être un grand économiste pour me financer moi-même, financer ma famille, financer l'église. C'est ce que j'ai dit à Dieu quand je finissais mes études d'économie. Et Dieu a dit, c'est pas ce plan-là que j'ai pour toi. Tu vas dépendre des finances des autres. J'ai dit, oula. Et quand il m'a engagé dans mon premier ministère, c'était parmi les étudiants dans le groupe Luc universitaire. J'étais à plein temps pour les étudiants en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les étudiants ont comme argent? Et j'étais à plein temps avec eux. C'était pas grand-chose. Et je recevais mon salaire chaque 3 mois. Mais j'étais content de faire ce travail. Quelquefois, j'ai dit à Dieu quand même, tu aurais pu faire autrement. Des fois, les gens nous disent, merci pour le temps que tu donnes. J'ai dit, faut me dire merci, mais faut dire merci à tous ceux qui donnent de l'argent pour que j'ai un salaire pour travailler en tant que pasteur. Parce que c'est ceux-là qui me permettent de travailler comme pasteur et de donner du temps. Parce que si j'avais un travail à côté, j'aurais pas eu ce temps pour m'investir pour l'église. Donc, financer l'église, c'est financer aussi un salaire pastoral. Il faut le savoir. Il faut savoir que nous, les évangéliques, nos pasteurs n'ont pas de sécurité sociale. Dans le sens où, si demain je suis malade, en fait, je n'ai plus de travail. J'ai même pas de chômage. Parce qu'on n'est pas à l'USAF, non. On est à la caisse qui s'appelle les caisses des prêtres, des moines. Donc, on est considéré comme des curés d'église. Le jour où on n'est plus en activité, ben, on n'a plus rien. Certes, on cotise pour notre retraite, mais c'est quand on sera à la retraite. Mais je dis ça parce que tous ceux qui enlèvent de leur salaire pour donner, je bénis Dieu pour eux, parce que grâce à eux, nous pouvons avoir un pasteur dans cette église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse là où vous enlevez, parce que je sais, parce que je suis père de famille, je sais qu'on n'a jamais trop. Et quand on enlève quelque part, bah, il y a quelque chose en moins. Mais c'est une discipline. On nous a appris, nous les plus anciens, quand on dit maintenant plus jeune, ça fait des scandales. On nous a appris que nous devions donner 10% de notre salaire à l'église. Ça s'appelle la dîme. Ça s'appelle la dîme. Et quand on enseigne, ils ont dit, oula! 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 10% de calcul est vite fait dans la tête, hein. Donc, si je suis au SMIC, tu es en train de dire, Serge, que je dois donner 140 euros par mois à l'église, c'est beaucoup, ça. Non, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que chacun de nous décide ce qu'il donne, mais qu'il doit donner avec joie. Peu importe que ce soit la dîme ou pas. Mais que la base biblique, quand on grandit, c'est la dîme. Mais il faut le faire quand on est convaincu. Il faut le faire avec joie. C'est pas une contrainte. Si on le fait avec une contrainte, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de portée. Par contre, si vous décidez de donner 20 euros, donnez-le fidèlement aussi. Donnez pas un dimanche, hein, le dimanche 5 centimes, le dimanche, non. Parce que, quand on fait les assemblées générales, on vous montre les besoins de l'église. Et ces besoins-là, c'est nous qui les finançons, les bien-aimés. C'est nous qui les finançons. Et donc, je suis reconnaissant. Parce qu'ici, ce que vous donnez me permet d'avoir un salaire. Quand j'étais sur une implantation où partait avec très peu de familles, il n'y avait pas de garantie que chaque fin de mois j'ai un salaire, mais j'étais convaincu que c'est là que Dieu m'a appelé. Hein. Heureusement qu'à cette époque, ma femme avait un travail qui nous permettait de gérer les choses autrement. Mais on savait jamais à la fin du mois ce qu'on allait recevoir, puisqu'on était une petite poignée. Donc c'est un appel, c'est ma vocation. Je suis pasteur, je suis fier. Dieu m'a appelé pasteur et je le revendique et c'est ce que je serai, j'espère, jusqu'à ce que Dieu m'appelle. Et je suis dans ce ministère pas pour l'argent, mais parce que Dieu m'a donné ce cœur pour aimer, proclamer la parole de Dieu, mais aimer dire aux chrétiens, vous avez un Dieu qui vous aime, qui veut faire de vous des personnes pleines de l'amour de Dieu, et qui veut que cet amour de Dieu en vous éclabousse tous les autres au dehors. C'est ça. Hormis ce volet financier, il y a le volet ministériel. Levez-vous maintenant, vous tous qui n'êtes pas encore levés dans cette église, levez-vous pour servir. On a besoin de vous. Mais aussi dans les différents services, il faut que chacun de nous progresse. Hein, on vient pas dans un service pour dire... Bref, on vient dans un service pour dire, on va progresser. Je commence là, mais je veux pas m'arrêter là, je veux progresser. Donc ça demande des efforts, ça demande de la discipline. Ça demande de fixer les objectifs ensemble et de s'en tenir à ça. J'ai fait un gros aparté de ce matin. Parce que des fois, je me dis, je sais pas de quoi sera fait demain. Peut-être aujourd'hui c'est le bon moment de dire ces choses-là. Demain, depuis que je suis entré en 2022, que je suis entré dans ma 50e année, je me convainc que je peux partir à tout moment. Je sais pas pourquoi. Je suis pas morbide, mais je suis reconnaissant parce que j'ai fait un demi-siècle quand même. Et que je vois quelques-uns de mes promotionnaires qui sont partis. Des amis chers à moi que Dieu a appelés. Mon beau-père qui est parti il y a 3 ans ou 4 ans. Mes parents qui vieillissent. Le Covid m'a fait côtoyer la mort de façon presque régulière ici. Tous les enterrements que j'ai faits, des gens que je connaissais pas. Ça m'a rappelé notre fragilité et que parfois il faut faire les choses quand c'est le bon moment. Et il me semble que nous sommes dans ce bon moment. Levons-nous bien aimés. Il y a un passage de l'Ancien Testament dans les psaumes qui dit « Levons-nous et bâtissons, car c'est aujourd'hui l'heure où Dieu a besoin que ses enfants se lèvent pour bâtir sa maison. » Est-ce qu'il y avait autre chose derrière? C'est la dernière? Ouais, c'est la dernière. Oui, ça, c'est pas nécessaire. Je l'ai dit. Merci. En tout cas, je m'excuse d'avoir pris plus de temps. Je vais inviter Josiane. Tu veux venir, Josiane? Tu veux venir prier? Je veux me permettre de te déranger ce matin, mais accepte de venir. Tu veux venir, Monique, s'il te plaît? Tu peux venir prier. Et puis, Julie Copet, tu veux venir? Venez, ma bien-aimée. Venez, mes soeurs.
Vous pouvez rester là, s'il vous plaît. Je préfère que vous montiez, s'il vous plaît. Montez avec moi. Et nous allons prier avec ces bien-aimés. Si vous pouvez vous tenir debout, vous priez avec nous. Venez, Joseph. Josiane, Monique, Julie, l'une après l'autre. Priez avec.
Seigneur notre Dieu, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, tu es notre Dieu. Et nous voulons vraiment te dire la reconnaissance de nos cœurs pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce message. Que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, Seigneur, mais par grâce, nous t'en supplions de venir à notre secours. Nous avons besoin de toi afin d'appliquer nos cœurs à ta parole, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu nous as parlé par la bouche de ton serviteur en ce matin. Nous voulons te dire merci pour toutes ces exhortations, Seigneur. Tu sais que ton Église en a besoin. Dispose nos cœurs à t'écouter. Dispose nos cœurs à mettre en pratique ta parole. Ô Dieu, tu sais ô combien nous avons besoin de toi. Alors en ce matin, que tu nous fasses grâce de répondre à ton appel, Seigneur. Oui, Seigneur, viens à notre secours. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Que nous ne soyons pas rebelles à ta parole, Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de grâce, que chacun de nous, nous puissions nous examiner et voir ce qui ne va pas dans nos vies et voir où nous avons besoin de progresser, de changer de direction. Seigneur, qui peut sonder un cœur si ce n'est toi? Toi seul peux sonder un cœur. Devant toi, rien n'est caché, Seigneur. Alors, Seigneur, nous t'en supplions de venir à notre secours, Seigneur. Vois, Seigneur, nos cœurs. Et viens à notre secours, Seigneur. Nous t'en prions. Nous t'en supplions. Dans le doux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Cette gloire que tu as dit que tu ne donneras qu'un autre. Béni sois-tu notre Dieu, notre Père. Amen.
Notre Dieu, notre Père, avant toute chose, nous voulons te demander pardon. Seigneur, nous ne pouvons pas nous présenter devant toi sans obtenir ton pardon, recevoir ton pardon. Merci Seigneur, merci pour ces moments que tu nous permets de passer en ta compagnie. Merci de nous permettre d'être à tes pieds, du Seigneur. Recevoir ce que tu as à nous dire. Recevoir ce que tu veux que nous soyons, Seigneur, devant ta face. Merci Seigneur, merci de ta parole. Merci pour les bénédictions, Seigneur, que tu nous donnes. Merci Seigneur, parce que avec toi, rien n'est fait en vain. Seigneur, nous avons tout en toi. Nous avons tout par toi. Seigneur, reçois. Reçois favorablement les paroles de nos bouches ce matin. Que nous soyons bénis par toi. Que nous soyons enrichis par toi. Que nous soyons fortifiés par toi. Seigneur, bénis et fais grâce. Seigneur, nous voulons recevoir ce partage de notre pasteur ce matin. Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais nos cœurs à chacun. Tu sais là où nous avons besoin d'être rétablis, là où nous avons besoin d'être fortifiés, là où nous avons besoin, Seigneur, d'être corrigés. Seigneur, corrige, fortifie, rétablis, relève. Donne la force, Seigneur, dans nous. Nous avons besoin dans nos vies parce que nous ne sommes pas infaillibles. Seigneur, nous sommes des êtres humains, nous sommes enfants de Dieu et nous voulons le rester. Alors, Seigneur, viens, viens, Seigneur. Viens, présente-toi, Seigneur, dans nos cœurs. Présente-toi, Seigneur, dans nos vies. Donne-nous la force dont nous avons besoin. Donne-nous la volonté dont nous avons besoin. La détermination dont nous avons besoin, Seigneur, pour pouvoir te suivre. Pour pouvoir accomplir, Seigneur, ce que tu veux que nous accomplissions. Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci, notre Dieu. Merci de changer nos vies. Là où nous avons besoin d'être changés. Merci d'être, de nous corriger. Aussi, Seigneur. Nous ne sommes pas trop âgés pour être corrigés.
Oh, Jésus.
Seigneur, touche nos cœurs, touche nos pensées, touche nos paroles, Seigneur, et transforme-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Seigneur Jésus, nous venons à toi tel que nous sommes. Seigneur Jésus, tu as entendu ta parole ce matin. Que tu nous aides chaque jour, Seigneur Jésus, à mettre ta parole en pratique. Merci, Seigneur Jésus, pour chacun de nous ici ce matin. Tu nous as donné le souffle de vie, Seigneur Jésus. Ouais. Mon Dieu, la semaine a été, mais grâce soit rendue à toi, Seigneur Jésus, nous sommes réunis. Mon Dieu, tu as entendu les prières de mes sœurs, tu as entendu la parole de mon pasteur, Seigneur Jésus. Mais mon Dieu, toi seul qui sais, Seigneur Jésus, tu vois que tu nous donnes chaque jour la santé afin que nous puissions aller gagner notre paix. Mais quand il s'agit de donner, Seigneur Jésus, nous cachons. Nous donnons trop, nous disons que nous donnons trop, nous avons des choses à faire. Mais c'est toi, grâce à toi, Seigneur Jésus, qui nous donne cette santé afin que nous puissions aller gagner notre vie, Seigneur Jésus. Dieu de grâce et de miséricorde, Seigneur Jésus. Mon Dieu, encore, viens à notre secours. Tu as entendu, Seigneur Jésus. C'est toi qui donnes. Mais à ce moment-là, Seigneur Jésus, nous devons donner pour ton service, Seigneur Jésus. Nous ne devons pas cacher, Seigneur Jésus. Nous ne devons pas dire, j'ai donné trop. Mais grâce à toi, Seigneur Jésus, tu donnes cette force, tu nous renouvelles, Seigneur Jésus. Dieu de grâce, Seigneur Jésus. J'espère, Seigneur Jésus, nous allons prendre conscience. Nous allons prendre conscience, Seigneur Jésus. On donne, mais avec une bonne volonté, Seigneur Jésus. Donnons, Seigneur Jésus. Tu nous donnes, nous devons donner, Seigneur Jésus. Mon Dieu, je te prie, Seigneur Jésus, encore pour nous, Seigneur Jésus. Afin que tu puisses nous donner, Seigneur Jésus, le don de donner. Ne soyons pas aveugles, Seigneur Jésus. On ne donne pas, Seigneur Jésus, on va le dépenser ailleurs. Mais Seigneur Jésus, on te donne pour ton œuvre, Seigneur Jésus, pour ton œuvre. Mon Dieu, je t'ai prié en ton nom. Mon Dieu encore, éclaire-nous, Seigneur Jésus, éclaire-nous, afin que nous puissions donner avec la bonne volonté, Seigneur Jésus. Mon Dieu, je prie, mais ce n'est pas parce que j'ai prié, Seigneur Jésus, mais je sais ce que je dois faire, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, bénis tous mes frères et sœurs qui sont ici là. Ils ont entendu le message, Seigneur Jésus. Je t'ai prié en ton nom. Amen.
Amen.